Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama Suivez Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Nkwatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc Amine Birouk, vous l'avez constaté, n'est pas là ce soir. Il est en route pour le Qatar où se déroule la Super Coupe de la CAF. Eh bien, vous le savez tous, on connaît désormais tous les pays qualifiés pour la phase finale de la CAN Égypte 2019. Il restait encore 10 bien avant la dernière journée disputée le week-end écoulé. C'est désormais OK, on va procéder groupe par groupe pour que rien ne nous échappe. Eh bien, dans le groupe A, il n'y avait plus de tickets à prendre, le Sénégal et Madagascar s'étant qualifiés avant cette dernière journée. Mais Amdine, ce fut quand même un match pour l'honneur entre Sénégalais et Malgaches à Thiès.
Tout à fait, Yacouba. C'était la finale de la poule A, puisque c'est le premier, le Sénégal, qui recevait son second, le Madagascar. Mais comme vous l'avez constaté, le Sénégal a bouclé ses éliminatoires en beauté, de la plus belle des manières, en s'imposant devant le Madagascar sur le score de 2-0. Deux buts signés Mbaïyan, l'international sénégalais qui évolue au Stade Rennais. Il faut dire, Yacouba, que le Sénégal a vraiment survolé cette poule A, puisque le Sénégal a réussi non seulement à conserver sa place de leader de cette poule A avec 16 points, mais les Lions ont réussi un parcours sans faute avec 5 succès et un match nul. Le match nul a été concédé, c'était à l'aller face aux Malgaches, 2-0. Et le Sénégal, qui est meilleure attaque avec 12 buts et meilleure défense également avec 2 buts seulement encaissés. Mais l'importance de ce match, c'était le déplacement, parce que pour la troisième fois de l'histoire, le Sénégal jouait dans une région de l'intérieur, c'est à Thiès, parce qu'en 1975, les Lions avaient joué un match contre le Maroc à Kaolack. Ensuite, ils ont joué en 1995 à Ziguinchor. Donc le pari, c'était quoi? Relever le défi de l'organisation en jouant à 70 km de Dakar, et ce fut une belle fête, une belle réussite. L'organisation a été parfaite et les Lions ont déroulé. Et pour la première fois depuis qu'Aliou Cissé est à la tête de cette équipe depuis 2015, c'est pour la première fois que le Sénégal allie spectacle et efficacité. Pour une fois, le Sénégal a produit du jeu, et cela, Aliou Cissé le doit à son sa nouvelle pépite, Krempe Diatta, le meneur de jeu du FC Brugge, qui a été essayé pour ce match. C'était son baptême du feu et il a réussi. Pour une première, on avait 3 milieux offensifs et cela a réussi. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée pour pouvoir quand même faire une bonne CAN. Et cela commence dès demain, parce qu'il y a un match de préparation contre les Aigles du Mali. Ce sera demain à partir de 17h au Stade. Le pôle sera Senghor Yacouba.
Merci bien, Amdine. Donc, on va rappeler que l'un des artisans de ce succès sénégalais, c'est bien le sélectionneur Aliou Cissé, que nous allons écouter tout de suite.
L'ensemble de l'équipe du Sénégal a fait une très belle prestation. Puis on gagne 2-0, ce fut un match difficile à l'aller. C'est la preuve aussi que quand la peau nous est bonne et qu'on arrive à pratiquer un bon football, mettre en place ce que nous voulons mettre en place.
Dans le groupe B, le Cameroun accompagnera le Maroc en battant les Comores 3-0. Les Lions Indomptables ont pris la deuxième place de ce groupe-là. Notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Ntap, pour le compte-rendu du match.
C'est le capitaine de jeu, Choupo-Moting, qui a ouvert le score à la 38e minute de jeu. Puis d'un tir croisé à l'entrée de la surface de réparation, Christian Bassogo va inscrire à la 53e minute le second but du match. À moins une minute du temps réglementaire, Clinton Ndié, entré en cours de jeu et après un joli slalom dans la défense comorienne, a porté le score à 3-0 en faveur du Cameroun. Choupo-Moting, capitaine des Lions Indomptables.
Je suis très content parce qu'on a gagné à la maison. On a montré une bonne réaction aujourd'hui.
L'équipe des Comores a eu de la peine à élaborer son jeu habituel. Faïz Selamani, attaquant de l'équipe nationale des Comores.
Le Cameroun a mis une grosse intensité aussi. Pris à 3-0, c'était terminé.
Attendu, la décision du tribunal arbitral du sport, suite au recours introduit par les Comores et demandant la suspension du Cameroun après le retrait de l'organisation de la CAN au pays. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Emmanuel, Jules Ntapa, depuis Yaoundé, un Jules qui en cache un autre. Alors Jules, les Lions Indomptables défendront leur titre, hein, mais les Comoriens conservent tout de même un mince espoir, hein, d'aller en Égypte, leur fédération ayant déposé un recours auprès du TAS pour faire annuler, hein, la décision de la CAF de ne pas disqualifier le Cameroun après lui avoir retiré l'organisation de la CAN 2019.
Oui, mais là, c'est que, en fait, il était logique, il est tout à fait normal que les Comoriens essayent de profiter de la moindre faille pour peut-être se retrouver en Égypte, mais étant donné que c'est la CAN, la CAF qui a retiré l'organisation de la CAN au Cameroun, et que le Cameroun a subtilement réagi en continuant à faire ses travaux. On a pu admirer la qualité du stade Amadou Ahidjo, par exemple. Donc, nous ne nous retrouvons pas dans une situation où c'est le pays qui a refusé de jouer la CAN. Je crois que cet élément pèsera lourd au moment de la décision finale du stade.
Merci bien, Jules. Dans le groupe C, ce sera le Mali et le Burundi qui jouera la première CAN de son histoire. Les Hirondelles, hein, avaient besoin d'un match nul pour se qualifier et ils l'ont fait en accrochant les Panthères gabonaises à Bujumbura 1-1, suivant le reportage de Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
Dès le coup de sifflet du coup d'envoi de la rencontre Gabon-Burundi samedi, les joueurs d'Olivier Niongeko seraient à l'attaque. Décomplexés, les coéquipiers de Saïdo Beraïno de Stoke City ont rivalisé avec les Gabonais de Bamea. La société d'Arsenal écopera d'un carton jaune au cours de la première manche, en match équilibré à l'issue incertaine sans suivi jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires sur un centre de Beraïno à la 75e minute, Cédric Amissi qui joue à Oman propulse le ballon dans les buts du Gabonais Didier Ovono. Le stade vibre de joie. Mais 10 minutes plus tard, le défenseur burundais Omar Ngando marque contre son camp. En silence de mort, s'abat sur le stade. Les joueurs gabonais de l'ancien attaquant Daniel Cousin font tout pour marquer le but de la qualification en vain. Après 3 minutes de temps additionnel, l'arbitre égyptien siffle la fin de la rencontre. Tout le Burundi explose. Le pays venait de se qualifier pour la première fois de son histoire à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Alors, Jules, je reviens à vous. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas suffi au Gabon.
Oui, le retour de Pierre-Emerick n'a pas suffi au Gabon, malgré les efforts qu'il a faits, des efforts au niveau de la fixation, des appels incessants pour libérer ses coéquipiers, et notamment son coéquipier en attaque, Evouna, Malik Evouna, qui a été assez maladroit. Mais il faut dire que là, c'est plutôt la poule qu'on a voulu nourrir le jour du marché, parce que s'il faut voir bien les choses, c'est à Libreville que le Gabon perd sa qualification face à un rival direct de Burundi en jouant devant un stade totalement vide, un match crucial et qui s'est soldé par un match nul. Et donc, et sûrement pour les raisons de la longue crise post-électorale. Donc, en allant trébucher au Burundi, le Gabon avait d'abord glissé à Libreville.
Merci bien. Alors, Jules, dans le groupe D, le Bénin a pris le meilleur 2-1 sur le Togo pour arracher le deuxième ticket. Le premier étant revenu à l'Algérie. Écoutons Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin.
Le sentiment, on va dire d'abord, c'est une grande joie et une grande fierté aussi, parce que on a beaucoup travaillé et on voulait aussi rendre le peuple béninois fier de son équipe et d'arracher cette qualification. C'était pas un groupe facile, je l'ai dit depuis le départ, mais aujourd'hui c'est nous qui sortons. On a développé beaucoup de valeurs morales, un groupe que je félicite parce que tout le monde était motivé, à l'écoute, et on a fait une bonne campagne dans ces éliminatoires et aujourd'hui on a la récompense.
En face, c'est une déception pour le sélectionneur du Togo, Claude Leroy.
Le résultat est sévère pour nous, mais on n'a pas su concrétiser certaines occasions. On a été pris sur des balles de contre. On savait comment ils allaient jouer. Le terrain n'est pas aussi catastrophique que tout ce qu'on pensait, mais c'est quand même pas un bon terrain pour développer du football. On va pas trouver d'excuses. On est éliminés. On va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant qu'ils représenteront dignement et qu'ils font une très belle carrière en Égypte 2019. Quant à nous, on va faire le point tranquillement pour voir où il y a encore de la marge de progression.
Des propos donc recueillis par Élisée Nkwatine qui est avec nous ce soir. Alors Élisée, les écureuils font leur retour en Coupe d'Afrique des Nations après 9 ans d'absence.
Oui, ce fut difficile, hein, il faut le dire, puisque
on l'a raté de justesse, hein. Les Ukrainiens l'ont raté de justesse il y a de cela 2 ans. Justement, ils étaient en concurrence avec les EPV du Togo. Et cette lourde défaite à Bamako contre le Mali, 5-2, nous avait privé de cette Coupe d'Afrique des Nations remportée plus tard par le Cameroun. Et il suffisait simplement de perdre, mais par 2-1 ou bien par 3-1. Et là, le Bénin était qualifié. Cette lourde défaite avait promis aux Togolais qui s'était largement imposé devant les autos, hein, si je me rappelle bien, 9-0. C'est ça qui a permis aux Togolais de se qualifier pour cette phase finale. Maintenant, la revanche, c'est bien sûr à Cotonou cette fois et devant un public survolté, un public impressionnant. Même il y a eu beaucoup de blessés, hein, Yakuba Ouédraogo, il faut le dire, dont 2 morts, il faut le signaler, puisque déjà il y a eu des bousculades, un est décédé et puis après, il y a eu des essais de tir à balles blanches de la part de la police républicaine. Et dans la matinée, dans la journée de ce matin, eh bien, le second étant décédé, les responsables ont été interpellés. Il y a même le directeur de la police départementale qui a été relevé de cette fonction, notamment le policier qui a tiré aussi a été mis aux arrêts. Donc, c'est allé très vite ici au Bénin. Revenons sur le terrain. Les Béninois ont montré beaucoup de choses. C'est vrai que dès l'entame, hein, le sélectionneur avait mis un schéma tactique défensif sur pied, puisque Dichy avait joué exactement comme à l'aller à Lomé, où les écureuils avaient évolué 3 derrière. C'était un schéma de 5-4-1. Mais très tôt, Gavi Ziegler avait permis au Bénin de prendre l'avantage sur une très belle ouverture du nouveau, celui-là même qui est venu pallier l'absence de Stéphane Sessayon. Sergio Soukou qui évolue en 3e division du côté de l'Allemagne. Et donc, sur cette ouverture, eh bien, David Diga avait permis au Bénin de prendre l'avantage. Les Togolais qui ont bien joué aussi, puisque c'était un match très engagé, ils ont pu égaliser par leur capitaine Emmanuel Adebayor, qui a ainsi été l'homme du match côté togolais, puisque franchement, à Lomé, il n'avait rien foutu. Mais cette fois-ci, il a montré l'exemple. Il a permis aux Togolais d'égaliser. Et puis, Steve Mounier, l'attaquant de Sturridge en Angleterre, a permis aux Béninois de se qualifier. C'était la grande satisfaction. Le public était complètement en communion avec les joueurs. C'était la joie totale. Le Bénin retrouve une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 9 ans après, vous l'avez dit, c'était lors de la CAN qui s'est déroulée du côté de l'Angola.
Merci bien, Élisée. Dans le groupe E, l'Afrique du Sud a décroché son billet en battant la Libye 2-1. Le Nigeria s'était déjà qualifié bien avant. Dans le groupe F, le Ghana et le Kenya se sont qualifiés au détriment de l'Éthiopie et de la Sierra Leone disqualifiés. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. Dans le groupe G, le Zimbabwe, la République démocratique du Congo et sont les qualifiés. Les Zimbabwéens ont douché les espoirs des Diables Rouges du Congo 2-0, tandis que leurs voisins de la RDC s'en sont sortis face au Liberia in extremis 1-0. Une courte victoire, mais suffisante pour être présent en Égypte. Écoutons Florent Ibengue, sélectionneur des Léopards.
On a fait un match solide. L'essentiel était bien de se qualifier. Il y avait une pression énorme sur les épaules des joueurs. Il fallait la passer. Il fallait que le jeu prenne le pas sur l'enjeu. Je crois qu'on l'a bien fait sans trop paniquer. Donc j'ai demandé à ce qu'on joue plus vers l'avant, notamment Poku et Trésor, parce que c'était les deux joueurs offensifs. J'aurais demandé de prendre des risques parce que Bakambu était beaucoup plus rapide que tête défense centrale. Donc il fallait mettre les ballons vers l'avant. Donc on a opté pour un jeu semi-direct et sur une action, voilà, une balle en profondeur. On a pu transformer le but et puis ne pas trop paniquer, même s'il y a eu des situations chaudes.
Florent Ibengue, sélectionneur donc de la République démocratique du Congo, au micro de Thierry Kambundi, notre correspondant à Kinshasa. Alors Thierry, il a fallu être patient, hein, mais surtout ne pas confondre vitesse et précipitation dans ce stade des Martyrs.
Absolument, il a fallu être patient, multiplier les efforts, multiplier les initiatives, prendre le risque, comme le coach l'a dit, dans un stade qui a totalement fusionné avec les Léopards. La mobilisation était totale ici durant toute la semaine avant ce match. Le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, s'est personnellement impliqué. Il est allé encourager les joueurs la veille du match. Il était au stade, c'est pour la première fois depuis 14 ou 15 ans qu'un chef d'État vienne assister au match des Léopards de la RDC. Et pour lui qui démarrait son nouveau mandat, c'était, on va dire, du pain béni, d'autant plus que le public était mobilisé. 3 heures avant le match, le stade des Martyrs était hyper rempli. Bref, ce public a poussé les Léopards à aligner en 4-2-3-1 avec Cédric Bakambu en pointe. Et pour toute raison, c'était la première fois que ces deux-là jouaient ensemble depuis le retour de Mputu Trésor. Et bien, ça s'est bien passé en début de seconde période. Relance rapide du gardien, début match en Pivoumi, dévié par Yannick Bolassier. Présent Mputu qui a mis le ballon en profondeur pour Cédric Bakambu, qui s'était loupé en première période, mais là, qui n'a pas tremblé et qui a transformé cette occasion en but. Derrière, les Léopards ont un tout petit peu baissé le régime, laissant venir les Libériens qui ont tenté, qui ont eu quelques actions, tout de même sans pour autant inquiéter plus que cela. Matam Pivoumile était très très vigilant dans la cage des Léopards de la RDC. Au final, ce but a suffi au bonheur des Léopards de la République démocratique du Congo, qui, sous l'ère Ibenge, se qualifie à troisième fois d'affilée pour une phase finale de Coupe d'Afrique après 2015 en Guinée équatoriale, 2017 au Gabon et donc cette fois-là, ça sera 2019 en Égypte.
Dans le groupe H, la Côte d'Ivoire et la Guinée sont les qualifiés au détriment de la République centrafricaine et du Rwanda. Alors, Amdine, ici, on va dire, les pays favoris ont répondu présent. Amdine, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Je disais que la hiérarchie a été respectée, Yacouba. Que ce soit la Côte d'Ivoire ou la Guinée, ce sont des favoris et ils ont tenu leur rang et en terminant bien ces éliminatoires, puisque la Côte d'Ivoire s'est imposée alors que la Guinée-Conakry a fait match nul. Je pense que qualification logique pour ces deux équipes.
Dans le groupe I, cette CAN 2019 se jouera sans le troisième de la précédente édition, le Burkina Faso donc. Malgré sa victoire 1-0 face à la Mauritanie déjà qualifiée de Ouagadougou, le compte rendu de notre correspondant Salif Kabori.
Pour la première fois après 2008 au Ghana, le Burkina Faso sera absent à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Paulo Duarte, l'entraîneur des étalons de Burkina Faso, s'est fondu en excuses après l'élimination des étalons.
Je peux m'excuser beaucoup, je suis un homme, j'assume les défaites. On n'a pas réussi, certains moments on a dormi un peu, quand on a réveillé, c'est un peu tard. Ça c'est la réalité.
Battu à Ouagadougou, les Morabitoun perdent la première place du groupe au profit de l'Angola. Un goût amer pour l'entraîneur de la Mauritanie, Martins Corentin.
J'allais dire aussi que ce match du Burkina servirait de préparation pour la CAN en essayant de nouveaux joueurs, un nouveau système.
Le président de la Fédération Burkinabé de football, Sita Sangaré, n'a pas évoqué l'avenir de Paulo Duarte avec le football burkinabé, préférant attendre la fin de ce contrat en juin 2019. Ouagadougou, Salif Kabori, VOA Afrique.
Les étalons ne sont pas parvenus à doubler donc l'Angola qui a obtenu sa qualification en s'imposant 1-0 au Botswana. Alors Élisée, c'est une grosse déception hein, pour le Burkina Faso, pourtant annoncé favori de ce groupe I.
On a fait des points, hein, notamment du côté de Nouakchott hein, contre la Mauritanie, premièrement. Et puis, le match qu'il ne fallait pas perdre, hein, c'était contre l'Angola à Luanda, où cette boude hein, avait permis aux Angolais de l'emporter. C'est vrai que le jeune gardien de but de Lille n'était pas si concentré hein, dans cette rencontre. C'est lui qui a permis aux Angolais d'inscrire le second but. Les Angolais l'avaient emporté 2-1. C'est ça qui a mis un peu en difficulté, hein, pas un peu. C'est ça qui a mis complètement en difficulté les Burkinabés. Et malgré leur victoire 1-0 contre la Mauritanie samedi dernier, eh bien, ça n'a pas suffi, puisque les Angolais aussi ont fait le job en allant s'imposer 1-0 à l'extérieur. Les locaux auraient pu égaliser, hein, puisqu'il y avait une nette occasion juste après l'ouverture des Angolais. Et ils pouvaient égaliser, mais c'était sans compter sur la détermination du gardien de but angolais qui était sur, a fait une remarquable parade hein, pour laisser le ballon aller en corner. Maintenant, les Burkinabés vont le regretter. C'est vrai que depuis un certain moment, il y a des situations fâcheuses hein, qui se passent à l'intérieur, non seulement au niveau de la fédération, mais aussi à l'intérieur de cette sélection où quelques anciens cadres hein, ne sont pas forcément d'accord avec les choix de Paulo Duarte. Est-ce que, bon, Sita Sangaré l'a dit, il va laisser Duarte terminer, probablement, pas probablement, il va laisser terminer son contrat et après, certainement qu'il va passer à autre chose, il va le remplacer tout ce qui un coup de toute cette sélection qui a commencé par nous faire rêver du côté de l'Afrique de l'Ouest.
Merci bien, Élisée. On le rappelle, Sita Sangaré, le président de la Fédération Burkinabé de football, disait hier en conférence de presse que la fédération va se pencher bientôt sur le sort de l'entraîneur. Dans le groupe K, les deux places sont revenues à la Guinée-Bissau, première après son nul 2-2 face au Mozambique, et à la Namibie, deuxième malgré un revers 4-1 en Zambie. Ce sera la deuxième participation de suite pour les Bissau-Guinéens. Les Namibiens, eux, feront leur grand retour après des passages en 1998 et en 2008. Alors, Jules, la grosse déception de ce groupe-là, c'est la Zambie.
Bien sûr, la Zambie est la grosse déception de ce groupe où elle passait pour être l'équipe favorite. Mais cela marque sûrement la fin d'un cycle, et les équipes de jeunes zambiennes n'étant pas encore suffisamment rodées pour succéder aux joueurs brillants du passé. Bon, donc, mais la Zambie a quand même tenu à marquer son territoire au dernier match en infligeant un cinglant 4-1 à la Namibie, à titre de rappel.
Dans le groupe L, la Tanzanie a fait le nécessaire face à l'Ouganda 3-0 pour valider son ticket et accompagnera donc l'Ouganda, un premier de ce groupe-là, avec 13 points. Voici les 24 pays qualifiés: le Sénégal, Madagascar, le Maroc, le Cameroun, le Mali, le Burundi, l'Algérie, le Bénin, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le Zimbabwe, la République démocratique du Congo, la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Angola, la Mauritanie, la Tunisie, l'Égypte, la Guinée-Bissau, la Namibie, l'Ouganda et la Tanzanie. Trois pays joueront la CAN pour la première fois de leur histoire. Il s'agit de la Mauritanie, du Burundi et de Madagascar. Alors Thierry, est-ce l'effet élargissement à 24 équipes qui a favorisé cela, ou il faut simplement s'incliner devant le travail effectué par ces formations-là?
Je dirais plus, surtout le travail, parce que les Léopards de la RDC ont, il y a deux ou trois saisons, affronté Madagascar. J'ai vu cette formation développer du bon jeu, même si elle avait perdu à domicile, et me suis dit justement qu'elle avait un bel avenir devant elle. J'ai également eu l'occasion de voir les Morabitounes de la Mauritanie se produire lors des précédentes éliminatoires. C'est une équipe très bonne qui également avait des bons éléments et qui pouvait espérer. Je me le disais qu'ils pouvaient espérer dans les prochaines saisons, arracher un ticket pour une Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que l'effet 24 nations favorise également des surprises comme ça, comme le Burundi, comme la Mauritanie ou comme Madagascar qui en sont à leur première participation. Mais il faut saluer également le travail abattu par ces différentes sélections. Je dirais également globalement que la logique a été respectée en dehors de quelques surprises, le Burkina Faso qui ne sera pas là, la Zambie ou encore le Gabon. Mais globalement, toutes les grosses pointures du football africain ont réussi à valider leur ticket pour cette CAN qu'on espère justement très belle en Égypte en juin prochain.
Alors, on rebondit dessus. Donc, on note bien évidemment les éliminations du Burkina Faso, 3e de la dernière édition, du Togo d'Emmanuel et Adebayor, pardon, ou encore du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, ou encore de la Zambie dont parlait Jules tout à l'heure. Alors, Hamdi, est-ce des surprises vraiment?
Oui, c'est des surprises parce que le Burkina, qui était à un pas de se qualifier pour la Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde, c'est 5 représentants africains seulement. Donc, si on regarde quand même l'effectif du Burkina Faso, les joueurs qui composent cette équipe, il y avait de la place pour le Burkina. Il y a beaucoup de regrets pour cette équipe burkinabaise. Mais il faut comprendre que quand il s'agit des éliminatoires, c'est une épreuve de régularité. Donc, il faut se comporter très bien durant les phases de poule et ne pas attendre jusqu'à la dernière journée. Puisque ce qui est valable pour le Burkina est valable aussi pour la Zambie. Ils n'avaient pas leur destin entre leurs mains ou entre leurs pieds durant la dernière journée. C'est ce qui a fait qu'ils ont été éliminés. Maintenant, c'est comme ça, c'est le charme du football. Les meilleurs ne gagnent pas tout le temps. Donc, il faut se battre pour pouvoir être toujours parmi les meilleurs. Parce que si 24 équipes africaines sans le Burkina, sans la Zambie et sans le Togo, ça fait un peu désordre. Mais c'est comme ça, c'est le charme du football, Yacouba.
C'est bien sûr cela, le charme du football. On va rappeler simplement que le tirage au sort aura lieu le 12 avril au Caire et la compétition elle-même se déroulera du 21 juin au 19 juillet prochain en Égypte. Et donc, nous étions avec Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon, Élisée Nkwatine depuis Boyukon au Bénin, donc Thierry Kamboundi à Kinshasa et Amdine Si depuis Dakar. Sporama qui s'achève ici à la réalisation Michel Joseph. Zoïtek Vosniak à la console. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.